Direct en jeu de Radio Insolite, l'homme que j'accueille aujourd'hui est une voix connue dans toute la France, non, dans toute l'Europe, non, dans le monde entier, que dis-je, dans toute la galaxie, même dans la station spatiale orbitale, il paraît que tout le monde boit la voix de Xavier. Bonjour Xavier, ça va comme présentation, c'est pas mal hein?
Ah bah écoutez, là je suis très flatté, là franchement j'ai l'impression d'être le roi du monde.
Non, de la galaxie, j'ai dit attention, non.
Ah, de la galaxie,
de la galaxie. Non, attends, quand même, ne soyons pas modestes, hein, quand même. Bon, il faut déjà remercier Dominique Lotte qui nous met en relation, parce que c'est vrai que moi j'avais entendu parler de spectacle que tu vas représenter, puisque tu es passé en Avignon durant l'été 2022, et c'est un spectacle qui se trouve dans un contexte un peu insolite aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui nous arrive, mais avant de parler du spectacle, si on parlait de toi, qui es-tu, que fais-tu dans la vie ?
Eh bien, je suis comédien. Je suis comédien depuis toujours, d'une certaine façon, dans ma tête, parce que depuis que je suis tout petit, j'ai voulu faire ce métier. Et j'y suis arrivé. J'en vis, donc je vis de ma passion, ce qui n'est pas toujours simple, mais voilà, c'est quand même pour moi le plus beau métier du monde et c'est le seul que je sache véritablement faire. Donc, je suis à ma place.
D'accord, mais ça suffit pas. Accuse. C'est la faute à tes parents, c'est la faute à quelqu'un que tu as rencontré, c'est...
Alors c'est la faute à mes parents d'une certaine façon parce que à la maison, je viens d'une famille nombreuse et nous étions... je suis d'une famille de 9 enfants. Et il y avait quand même, c'était quand même assez difficile de trouver son endroit de parole. Et au moins j'ai trouvé un endroit où sur une scène de théâtre, on vous interrompt pas tout le temps et on vous dit pas de vous taire. Donc ça, si tu veux que j'accuse, je peux accuser en effet mes parents. Et après, j'accuse la chance. Parce que j'ai eu la chance, voilà, de faire très tôt connaissance du théâtre par le lieu théâtre où je me souviens que je m'étais échappé des louveteaux avec quelques copains où on était inscrits au louveteau, on s'embêtait à mourir et donc on était parti dans les rues d'Orléans fureter et on avait trouvé un immense terrain vague dans lequel il y avait un seul bâtiment qui était un théâtre et on est rentré dans ce théâtre qui était complètement à l'abandon, qui était un théâtre des années 50, avec encore ces chaises en bois, vous savez, tu sais, qui peuvent se s'ouvrir et se fermer comme ça, les prix qui étaient encore marqués en ancien franc, une scène très haute comme on en faisait à l'époque, et puis des tas de costumes qui nous attendaient, tout était en foutoir total, ça allait être évidemment détruit bientôt, et on s'est mis à jouer avec des capes, etc., à jouer les chevaliers, à jouer aux mousquetaires, etc., quoi, les choses de notre âge, voilà. Et puis ensuite, j'accuse aussi l'éducation nationale et je peux accuser d'une certaine façon Jean Zay, qui a été celui qui a sorti les élèves de leurs écoles pour aller leur faire ce qu'on appelle les activités dirigées, ou ce qu'on appelait les activités dirigées, qui étaient à la fois les visites de musées, de monuments, de jardins et des séances au théâtre. Je peux l'accuser lui et accuser mon professeur de l'époque qui nous a emmenés voir une représentation du Bourgeois Gentilhomme dans un théâtre d'Orléans dont je ne me souviens plus le nom à l'époque, et là, je devais avoir 9-10 ans et j'ai ri énormément. J'ai trouvé que c'était drôle. Alors, je ne sais pas du tout qui jouait à l'époque. Est-ce que par hasard, j'aurais pu voir Jacques Charon en tournée peut-être ? Non, je ne me souviens pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé que c'était merveilleux et je me suis dit, c'est là que je veux être. C'est là, sur une scène de théâtre. Voilà.
Il y a un truc que je ne saisis pas complètement. On est bien d'accord que tu es originaire d'Orléans.
Tout à fait, oui.
Orléans, ce n'est pas Jean Zay. Logiquement, c'est Jeanne d'Arc.
Ah, ben, il y a deux figures tutélaires à Orléans, c'est Jeanne d'Arc et Jean Zay. Non, non, c'est vraiment les deux grandes figures, on va dire, historiques de la ville. Évidemment, c'est Jeanne d'Arc, avec la fête de Jeanne d'Arc tous les ans, etc. Je suis encore passé là, puisque je suis aujourd'hui à Orléans. On se parle, je suis à Orléans pour trois représentations de mon spectacle sur Jean Zay. Je suis allé donc fureter un peu à droite à gauche, retrouver les lieux de ma mémoire de mon enfance ce matin, et j'ai vu évidemment là l'immense statue de Jeanne d'Arc sur la place du Martroi qui écrase un peu de son glaive toute la ville, mais la figure tutélaire de Jean Zay là aussi, hein, je veux dire que il est assez présent, il est dans les esprits, c'est voilà, c'est une figure historique qu'on a beaucoup oublié en France, d'une façon générale. Alors, il y a des questions, des raisons historiques pour ça, mais à Orléans, il n'est pas oublié. Non, il reste tout à fait dans les mémoires.
Et on lui doit beaucoup à Jean Zay. On lui doit la création du Festival de Cannes, qu'il n'a pas vu
Oui.
puisqu'il devait démarrer en 1944 et que la guerre a fait que ça a été repoussé de 2 ans.
En 39,
En
en
39, pardon,
39,
oui,
en
pardon, en
30,
39.
39. Oui.
On lui doit aussi la création de l'ENA, si je ne dis pas de bêtises. Et
Non,
puis
oui, tout à fait.
plein d'autres
Il,
choses.
il a, il a, disons qu'il a jeté les bases de l'ENA. Il a eu beaucoup de problèmes à l'époque parce qu'en fait, il voulait faire de cette École nationale d'administration une école publique qui ne soit pas payante comme était l'école qui préparait aux hautes fonctions administratives à l'époque. C'était une école payante, donc ce que l'idée toujours de Jean Zay, c'était l'idée de l'ascension sociale possible. Il était quand même radical de gauche et il s'est heurté évidemment à beaucoup d'immobilisme, mais il a quand même jeté les bases de cette école qui après évidemment est devenue un peu une école d'entre-soi quand même malgré tout, mais à la base au départ, l'idée, c'était vraiment que ce soit une école qui démocratise la haute fonction publique et qui puisse se faire à la limite, un fils de paysan puisse devenir effectivement haut fonctionnaire.
Et puis tout le monde le sait.
Ensuite,
Oui, vas-y.
voilà, il a créé le CNRS, il a créé, bon, il a beaucoup favorisé la science, hein, il a été très 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 proche des scientifiques. Il y aura d'ailleurs un hommage à Jean Zay par l'Académie des sciences à l'Institut de France le 4 mars prochain, Quai Conti, où le spectacle Jean Zay, l'homme complet sera donné en ouverture du colloque de ce colloque, de cet hommage qui s'appelle Jean Zay, un héritage vivant. Il a fait beaucoup, beaucoup pour la science, mais il a fait aussi beaucoup pour l'éducation en général. C'est lui qui a fait, comme je te disais tout à l'heure, qui a sorti les élèves de leurs écoles pour aller, voilà, un peu voir le monde et pas seulement être la tête penchée sur leur pupitre. C'est lui qui a mis l'éducation physique obligatoire à l'école. C'est lui qui a créé les bibliobus. C'est lui qui a élargi le concept d'éducation populaire. Voilà, avec Léo Lagrange, c'est lui qui a fait énormément, qui a créé énormément de pôles d'éducation physique, de sportive en France, à tel point que lorsque j'ai parlé de Jean Zay à quelqu'un qui est un passionné de football, qui m'a dit, mais tu sais, la Coupe du Monde, la victoire de la Coupe du Monde d'Aimé Jacquet en 1998, on pourrait dire que c'est la victoire de la Coupe du Monde de Jean Zay, parce que c'est lui qui a effectivement créé un tissu sportif en France qui a été, voilà, à l'origine de la réussite de l'équipe de France. On pourrait peut-être plus dire ça aujourd'hui, hein, parce que les choses ont beaucoup changé depuis 1998. Mais enfin voilà, c'est quelqu'un. Il y a quand même beaucoup de choses qui restent aujourd'hui de Jean Zay, hein, voilà, de son côté visionnaire. Et il a fait ça en très très peu de temps, à tel point que mon metteur en scène me disait pendant les répétitions, était lui aussi fasciné par la figure de Jean Zay, me disait, mais cet homme-là, il se levait le matin, il faisait une réforme par jour. Et c'est vrai qu'il a eu une activité absolument débordante. Et puis alors après, dans le domaine de la culture, effectivement, ça a été le Festival de Cannes, mais ça n'a pas été que ça. Ça a été aussi la création du Musée de l'Homme, la création du Musée d'Art Moderne, la création du Musée des Arts et Traditions Populaires, la pérennisation comment il s'appelle ce de quelque chose qui avait été conçu pour l'exposition universelle de 1938, je crois, qui a été supervisée par Jean Zay. Le nom m'échappe. Enfin bon, voilà, il a fait énormément de choses, énormément. Non, on lui doit beaucoup.
Alors, tout le monde ne sait pas, moi j'hésitais, mais tout le monde ne sait pas qu'il est au Panthéon aujourd'hui. Depuis,
absolument. 2015, il a été panthéonisé, avec d'autres résistants. Alors, c'est vrai que c'est François Hollande qui a permis cette panthéonisation en disant il y avait plusieurs résistants, puisque on peut placer Jean Zay comme résistant puisqu'il était l'un des résistants de la première heure. Il est parti au Maroc sur un bateau fameux qui s'appelait le Massilia, et il y a eu un piège tendu à ces parlementaires dont il faisait partie pour qui était censé rejoindre le Maroc pour continuer la lutte contre l'Allemagne qui était en train de gagner la guerre en France. Il est parti et il a été arrêté, mais son idée c'était bien de continuer la lutte, et il voulait pas capituler comme ça. Il voulait pas d'armistice comme celui qu'il y a eu avec Pétain. Donc voilà, et en tant que résistant, en tant que aussi ministre, François Hollande a dit c'est la République. Jean Zay, c'est la République. Et c'est vrai que c'est un homme qui a fait énormément aussi pour la laïcité. Alors, dans le spectacle, je n'en parle pas parce que je me suis vraiment basé sur son livre, son journal de captivité, puisqu'il a été enfermé, il a été emprisonné par Vichy pendant 4 ans avant d'être assassiné par la milice. Dans son journal de captivité, il ne parle pas de son action en faveur de la laïcité en France, mais c'est quand même lui qui a le premier interdit les signes religieux à l'école par une circulaire en 1937. Donc, il était en cela aussi précurseur, et je me souviens d'un dessin de Plantu dans Le Monde où on voit Jean Zay et il lui fait dire une phrase que lui-même a prononcée qui est à peu près, je me souviens plus les termes exacts, l'école doit être le lieu sacré à la porte de laquelle s'arrêtent les querelles des hommes. Donc il a fait aussi de l'école un sanctuaire où effectivement les signes religieux étaient interdits et tout signe d'appartenance à quoi que ce soit. Pour lui, la laïcité était vraiment au cœur aussi de son projet.
D'accord. Dans la présentation du spectacle sur Jean Zay, j'aime bien parce qu'il y a une phrase que j'ai retenue, c'est la conception du plateau comme un espace mental.
Oui, absolument.
C'est pas très fréquent comme conception.
Oh, disons que c'est une façon de dire que ce qu'a évité Michel Cochet, le metteur en scène, c'est de représenter une cellule de prison avec son lit, avec sa chaise, avec son lavabo, avec ses toilettes ou je ne sais quoi, sa tinette. Bon, voilà, il voulait absolument pas quelque chose de réaliste. Il y a sur le plateau très très peu d'éléments. Quand Jean Zay lui-même dans le spectacle décrit sa cellule, il dit qu'il y a quelques objets, etc. Et en fait, il arrive seulement en portant une chaise, et il y a juste cette chaise qui est indiquée. Et à partir de là, ça permet plein de choses, parce que il y a à la fois les souvenirs il y a à la fois la solitude de prison, cette prison dont il décrit à la fois sa solitude à lui, mais aussi le fait qu'il est relié à la prison de Rion, à tout ce qui se passe dans la prison et à l'extérieur par des tas de canaux, et en fait que tout est assez poreux, tout est assez perméable, qu'il est en relation même avec certains grands personnages qui ont pu transiter par la prison de Rion, comme le maréchal de Lattre de qui lui fait porter un petit arrosoir à un moment donné. Ils se rencontrent à un moment dans un couloir, je crois dans les douches, ils se reconnaissent, Léon Blum, Tassigny, lui, il va s'évader de la prison de Rion. Léon Blum passe aussi par la prison de Rion. Il y a ce fameux procès de Clermont-Ferrand où Léon Blum et Daladier sont à la prison de Rion, mais leur procès est à Clermont-Ferrand. Et ils vont retourner le procès contre le maréchal Pétain, à tel point que le procès est arrêté. Il y a une espèce de, je sais pas quoi, de choses judiciaires qui fait que on voit bien que ça va tourner à la catastrophe contre Pétain. Le procès est arrêté. Et Blum sera emmené en Allemagne comme plus ou moins comme otage. Voilà, donc il est en relation avec tout ça. Donc il y a cette solitude de prison qui est une solitude relative, mais quand même où il y a quand même une souffrance parce que il est lui emprisonné sans limite de durée. Sa condamnation, c'était la condamnation, une condamnation extrêmement exemplaire, symbolique, puisque ça a été exactement la même condamnation que Dreyfus 40 ans avant lui. C'est-à-dire la déportation, la dégradation militaire et la perte des droits civiques. Il n'a pas été déporté parce que, alors, au début du spectacle, il passe de la prison de Clermont-Ferrand, puis la prison militaire de Clermont-Ferrand, juste à côté de l'endroit où il était jugé, à Marseille, pour certainement l'emmener en Guyane, à l'île du Diable, où il était destiné. Et les Anglais font un blocus atlantique, qui fait que ni les bateaux nazis, ni les bateaux alliés des nazis, comme le régime de Vichy, ne peuvent traverser l'Atlantique. Donc, il est ramené à Rion, à côté de Vichy, pour être mieux surveillé, on va dire. Voilà. Et donc, il y a ça, d'un côté, et il y a aussi tous ses souvenirs, les souvenirs de tout ce qu'il a fait, de toute son action gouvernementale. Et c'est la raison pour laquelle Michel Cochet ne voulait pas un plateau qui soit trop réaliste, mais un plateau qui laisse surgir aussi toute la, voilà, d'abord sur le plan de intérieur, toute la liberté que Jean Zay trouve dans son travail, dans le fait qu'il écrit des romans en prison, dans le fait qu'il s'évade, qu'il a une très forte conscience de sa propre liberté intérieure, et tous ses souvenirs au sein du gouvernement, il se fait son petit cinéma intérieur, à un moment donné le personnage lève un petit écran qu'il s'est fabriqué avec un drap. Et sur cet écran vont être projetées des images qui sont des images de l'école, des enfants qui sont à l'école, qui font de l'éducation physique, des enfants qui partent à la campagne pour découvrir la campagne, etc., etc. Le théâtre que Jean Zay a beaucoup soutenu, le droit d'auteur dont il a été l'un des très grands réformateurs, heureusement, voilà, et tout un tas de choses qui viennent s'imprimer comme ça sur cet écran. Donc voilà, cette absence de géographie scénique trop marquée. D'accord. Fait que le spectateur peut vraiment tout imaginer et c'est assez ça marche très très bien quoi. C'est vraiment super.
J'ai l'impression que c'est un vrai travail de mémoire qui est fait. Et ce travail de mémoire est important en ce moment de revenir sur ces périodes, de ne pas les oublier.
Ah oui, absolument, oui, parce qu'on est, vous savez, enfin tu sais, excuse-moi, je louvoie entre le vouvoie et le tutoie. Et tu sais, non, franchement, là, on est dans une période très critique où on voit ressurgir de très 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 vieilles idées, des choses très dangereuses. Vraiment, il y a un recul dans l'acceptation de l'étranger, de l'autre. Il y a un repli sur soi qui est absolument général et mondial, je dirais. Hein. Et en France, on n'y échappe pas du tout. Et Jean Zay, il est vraiment l'une des grandes figures de cette, je sais pas si c'est une utopie. Enfin, c'était à un moment donné du Front populaire qui a été un élan absolument extraordinaire. Où tout d'un coup, des réformes très importantes ont pu avoir lieu. De libération de la société, qui sont vraiment alors évidemment il était animé par un esprit de gauche, mais qui voilà d'essayer de réduire les écarts de salaire, les congés payés, tout ça on le doit au Front populaire. Donc effectivement il faut revenir à ces exemples. Pour moi Jean Zay vraiment c'est l'exemple en plus d'un homme politique intègre qui est en entièrement dévouée au bien public, ce qui est bien rare aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit quand même des politiques s'agiter qui nous promettent monts et merveilles, et puis on voit qu'au final, quand ils sont au pouvoir, c'est la catastrophe, qu'il y a quelque chose qui les dépasse, il faut bien le dire, et qu'ils ne sont plus maîtres de la machine. Donc, voilà. Ce qui n'était pas le cas, je pense, à l'époque. Donc oui, effectivement, de toute façon, ma compagnie, elle se définit aussi de cette façon-là. Quand je l'ai créée, c'était aussi pour qu'elle transporte sur la scène les valeurs de tolérance, de justice et de partage qui sont dangereusement menacées, comme je le disais à l'époque, et je crois que c'est toujours et encore plus valable aujourd'hui. Et Jean Zay est une des grandes figures, effectivement, de ces valeurs de tolérance, de justice et de partage.
Ça va se jouer au théâtre Les Aillons à Paris, parce qu'il y a aussi.
Essayons à partir du 16 janvier, oui, tout à fait.
Ok, et là, donc évidemment, on pourra non seulement, comment dire, voir le spectacle, mais aussi te rencontrer, parce que je pense que tu n'hésites pas à aller voir les gens après.
Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr, je fais souvent des bords plateaux. D'ailleurs, je l'ai fait aussi souvent avec Hélène Moucharzet, la fille de Jean Zay, qui est une dame qui maintenant a un certain âge, mais qui est toujours très dynamique et qui défend la mémoire de son père de façon assez vigoureuse et belle, je trouve, et qui est devenue pas une amie, mais quelqu'un de très proche. Vous voyez, et tu vois, elle sera encore ce soir dans la salle et demain encore dans la salle pour faire des bords plateaux que nous faisons ensemble. Voilà, donc oui, effectivement, je suis toujours prêt à rencontrer le public, évidemment, avec grand plaisir.
D'accord. On est d'accord que tu es autour d'Orléans en ce moment.
Oui, tout à fait.
Jusqu'à la fin de l'année, il y a déjà un programme de fixé ou il faut attendre patiemment janvier pour te voir à Paris?
Il faut attendre patiemment janvier, le 16 janvier à 19h15 au Théâtre Essaillon, dans le 4e, en plein cœur de Paris, juste à côté de Beaubourg, entre Beaubourg et le Marais, pour venir voir ce spectacle. Et puis ensuite, il sera au Théâtre Saint-Maur pour plusieurs représentations en fin février, début mars. Il sera, comme je te l'ai dit, à l'Institut de France le 4 mars. Et puis, nous irons à Limogne, dans une petite ville du centre-ouest, on va dire. Voilà. Et puis Montpellier, le 14 mars. Voilà, une tournée qui s'étoffe petit à petit au fil des semaines. Voilà.
Okay.
Et à Essaillon, c'est quand même tous les mardis du 16 janvier jusqu'au 26 mars. C'est une fois par semaine, mais c'est pas mal parce que dans la durée, les gens peuvent avoir envie de venir. Voilà, ils sont pas pressés par une date. Ils ont vraiment un peu de temps pour venir voir le spectacle. Après, il faut quand même, y a quand même des gens qui trouvent jamais le temps et qui vous disent après la bataille, qui disent oh j'ai pas pu venir te voir. Mais c'est bien dommage parce que là, on dit vraiment du 16 janvier au 26 mars, il y a quand même un nombre de représentations suffisant pour venir.
Eh bien, moi, je voulais te remercier d'avoir pris tout ce temps-là. C'était passionnant. On pourrait rester encore une demi-heure pour parler de ça. Mais c'est vrai que tu parles d'un très grand personnage. Donc, Jean Zay, l'homme complet.
Oui.
N'hésitez pas à vous faire plaisir, à aller vous connecter sur le site internet du Théâtre de l'Essaillon. Et puis surtout, à vous déplacer pour voir le spectacle. Merci à toi.
Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Et à très bientôt. Merci.